Bonjour à tous.
C'est dramatique, docteur, j'ai perdu le goût. Je prends du poisson, je ne sens rien, de la viande, c'est pareil, rien. Le vin, c'est de l'eau, qu'est-ce que j'ai, docteur, je vous en prie, dites-le-moi.
Agusim.
Qui c'est ça?
En privatif, du grec gusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où cette semaine, la philosophie se fait par le menu, où elle nourrit l'esprit à partir de ses réflexions sur la nourriture et en fait ainsi un estomac à même d'assimiler tous les savoirs. Savoir faire du bon goût, c'était hier, de Chateaubriand à Roland Barthes. Savoir vivre de Rabelais et ses géants à l'appétit infini, ce sera demain. Et savoir tout court, où la dialectique de la digestion à la lumière des gueules, ce sera jeudi. Mais aujourd'hui, déplaçons notre point de vue de l'homme à l'animal en nous demandant pourquoi nos tabous alimentaires sont impensés. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins sait faire, vivre et sait, tout simplement, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Hervé Marchon et à la prise de son aujourd'hui Dalia. Hachmi me dit qu'on peut être végétarien et se moquer complètement de ce qui arrive aux animaux, et manger de la viande et se soucier de leur sort. Beaucoup d'hindous, nés végétariens, sont tout simplement dégoûtés par la viande. Ainsi ont-ils été éduqués. Il existe un clivage entre les végétariens qu'on pourrait dire passifs, c'est-à-dire dont le végétarisme est hérité, et ceux qui le sont par choix. Anil est un brahme, et il m'a dit qu'il n'a jamais mangé de viande et que l'idée d'en manger lui répugne. Il me raconte que lors d'un séjour à l'étranger, des amis non végétariens l'ont emmené dans un restaurant chinois et ont choisi pour lui un de ces rouleaux qui contenait de la viande, voulant le forcer à en goûter à son insu. Anil cracha immédiatement la bouchée suspecte et ne trouva pas la plaisanterie très drôle. Son dégoût est comme instinctif. Pour lui, manger la chair des mammifères ou des oiseaux est aussi repoussante que pour d'autres manger des hannetons. À l'évidence, ce n'est pas la question du traitement des animaux qui l'agite, mais plutôt une sorte d'horreur de la souillure. À quoi tiennent nos goûts et nos dégoûts? Alors que la philosophe Laurence Burga part en mission en Inde en 1998 pour découvrir le traitement des animaux au pays de la vache sacrée, elle rencontre donc Rashmi et Anil, deux Indiens dont le végétarisme n'a rien d'un choix éthique, conscient, réfléchi, mais tout de l'instinct, loin de ce qu'il est en Occident. Elle rencontre ainsi des manières de manger, de goûter ou d'être répugnée radicalement différentes, mais tout aussi solides et justifiées par le temps et l'habitude. Nos goûts ne seraient-ils donc que le fruit d'une lente maturation? Avant les consciences, inconscientes ou bonnes consciences, bien avant nos sensibilités pétries de plaisir ou endormies, pourquoi ne pas se demander comment nos goûts et dégoûts ne sont peut-être que les garnitures qui nous empêchent de penser d'où viennent nos manières de manger? Et pourquoi ne pas se demander plus largement comment nos goûts et nos plaisirs s'articulent bien paradoxalement avec des règles et des interdits, qu'ils soient religieux ou éthiques? Et si avant de manger, il fallait déjà parvenir à le penser? Éclairage sur nos mœurs et tabous alimentaires dès maintenant, en compagnie donc de Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique, auteur notamment de La cause des animaux pour un destin commun, et de ces lignes que j'ai lues, extraites de Ahimsa, violence et non-violence envers les animaux en Inde. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Voilà les côtes de peur. Alors il y a des bleus, il y a des saignantes, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Chacun sert. Hein.
Bah, moi je mange pas de viande.
Ah bon?
Ouais.
Tu n'aimes pas la viande?
Non, j'en prends pas.
Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave.
Tu veux qu'on te fasse autre chose?
Non.
Tiens, prends une tomate.
Non mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Ah bon?
Même poisson.
Bah, le poisson, pas trop non plus. Tu vois, j'en mange des fois quand... des fois quand il n'y a rien d'autre, alors... Tu vois, parce qu'il faut bien un petit quelque chose de protéine quand je suis chez les gens, des fois. Mais chez moi, je mange des céréales, je mange des... Moi, ça me suffit.
Les crustacés,
Non plus.
Ah, des crabes. C'est des bêtes, tout ça.
Ouais, finalement, c'est tout ce qui représente l'animal qui te...
C'est des bêtes, tu vois. Moi, c'est surtout les bêtes qui ont le sang rouge, quoi.
Alors finalement, on te présente une côte de porc, là, comme ça, et toi, tu vois l'animal, toi.
Moi, quand j'étais jeune, j'avais un peu des sentiments comme ça quand j'allais dans des boucheries. Maintenant, j'achète la viande dans des grandes surfaces et j'ai plus du tout ce sentiment-là.
C'est la preuve que c'est complètement une question de conscience et d'inconscience des choses. Et je trouve ça pas bien parce que si on arrive à manger de la viande simplement parce qu'on n'a plus conscience de ce qu'on fait et des moyens par lesquels on est arrivé à tuer une bête... C'est ça l'erreur, je veux dire, toi t'avais conscience quand t'allais à la boucherie, t'avais conscience du sang, de la violence, de la
Absolument,
chose,
ouais.
et là tout à coup tu la perds, et donc si tu la perds, mais il faut pas la perdre justement.
Florence Burga, vous avez souri pendant qu'on diffusait cette scène. C'est un extrait du Rayon Vert, le film de 1986 d'Éric Rohmer, dans lequel on entend Delphine, donc interprétée par Marie Rivière, une végétarienne, se retrouver avec des amis lors d'un barbecue. Elle ne veut pas manger de viande et elle se voit, elle doit se justifier en fait de ne pas manger de viande. On lui propose quand même de prendre une tomate. C'est une scène courante maintenant, c'est-à-dire qu'on a un peu plus l'habitude d'assister à ce genre de scène où finalement la personne qui ne mange pas de viande est obligée de se justifier. Alors, les arguments en jeu, lesquels sont-ils et qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans le fait de ne pas manger de viande? Est-ce que c'est le goût, le dégoût? Est-ce que c'est la conscience de la souffrance de l'animal? Est-ce que c'est un argument plus politique, même économique, autour du conditionnement de la viande dans le plastique, dans les supermarchés? Qu'est-ce qui est véritablement en jeu dans le fait de ne pas manger de viande, Florence Burga?
Alors, pour revenir à cet extrait, parce qu'il me semble que tout est dit dans cet extrait, ce qui m'a fait sourire, c'est la tomate, et finalement la persistance de l'identité des réactions en fait qui se manifestent à ce moment-là, et la proposition au fond d'un tout petit peu de nourriture, comme si le végétarien ou la végétarienne était une catégorie d'anorexique. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est très très présent dans l'esprit des gens. Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, ce qui est central, c'est le point sur lequel vous insistiez, la question de la conscience, évidemment. Cette jeune femme ne développe pas tous les arguments, mais ça suffit lorsqu'elle dit ce sont des bêtes qui ont du sang rouge, donc elle fait valoir une forme de continuité. Et puis donc l'un des convives qui est là et qui dit lorsque je n'ai pas les moyens de me voiler la face, je ne peux pas manger, mais finalement je trouve dans notre société de quoi me voiler la face et je n'ai plus de problème. Alors, bien évidemment, c'est ce que nous souhaitons interroger, c'est-à-dire comment la présentation des viandes suffit-elle à complètement modifier notre champ de conscience.
Ou notre goût. Parce que les gens qui mangent de la viande lors de ce repas, ou peut-être même en général, vont invoquer aussi le goût, le fait de plaisir, le fait d'avoir du plaisir à manger de la viande. Et dans cette scène, Delphine, donc Marie, le personnage de Marie Rivière, semble finalement se priver de quelque chose et ne pas prendre part à la convivialité du repas.
Alors, elle commence par dire que elle n'aime pas vraiment ça, parce que c'est l'argument le plus audible. Tu ne manges pas de viande, non, je n'aime pas ça, parce qu'on ne vous en voudra jamais de ne pas aimer quelque chose. En revanche, si vous faites valoir que vous aimiez la viande, mais que, ayant pris conscience de ce qu'est la viande, c'est-à-dire donc des animaux mis à mort, vous avez décidé de ne plus en manger, à ce moment-là, bien sûr, aussi discret que soit l'argument, il met en cause l'ensemble des personnes présentes qui n'auraient pas fait ce chemin. Donc, il y a toujours cette oscillation Après, effectivement, elle dit que ben non, ça, oui, peut-être elle le mangerait, ça, non, les crustacés. Et on la pousse, en fait, dans les derniers retranchements pour essayer de comprendre quel est son critère. C'est-à-dire, si elle mange des crustacés, peut-être qu'il y a là l'indication de son critère. Ce sont peut-être des animaux qui n'ont pas de sensibilité, qui n'ont pas de sang, qui n'ont pas, qui ne sont pas présents à leur existence comme le sont les mammifères et les oiseaux. Donc cet extrait, je crois, comporte un l'ensemble des interrogations autour de la question que nous posons ce matin.
Donc qu'est-ce qui est finalement en jeu dans le fait de manger de la viande? On se pose toute cette semaine la question de la nourriture, du rapport qu'on peut avoir à la nourriture. Et là finalement, on est en train de s'apercevoir que le goût ou le dégoût n'est pas forcément en jeu, n'est en tout cas pas le fondement de nos manières de manger, mais que finalement ce serait tout un ensemble de principes éthiques, idéologique, politique, qui serait en jeu et qui viendrait déterminer nos manières de manger.
Alors, je crois que pour cette question de l'alimentation et pour n'importe quelle autre, d'ailleurs, il faut bien être conscient qu'il y a des strates, en fait, à la fois de justification et à la fois dans la façon dont nous vivons les choses et dont nous les pensons. L'argument du goût n'est pas un argument nul et non avenu. C'est d'ailleurs l'argument qui est spontanément donné par le carnivore. Je mange de la viande parce que c'est bon.
Ou le végétarien d'ailleurs. Le végétarien. Je n'aime pas la viande.
Ou alors le végétarien qui aime la viande mais qui y a renoncé. Voilà, parce que souvent on pense que les végétariens sont des gens qui n'aiment pas la viande. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et peut-être on aura à revenir sur les différents types de végétarisme. Donc l'argument du goût, certes, est mis en avant. Mais il est insuffisant pour rendre compte de cet aliment particulier qu'est la viande. Donc, en effet, nous sommes invités à descendre plus profondément dans l'analyse et à nous demander, eh bien, quelle est la particularité de cet aliment. La particularité de cet aliment, c'est donc qu'un animal vivant est transformé, est mis à mort, transformé en cadavre, mais que ce cadavre est appelé carcasse de viande, et qu'à ce moment-là, on a donc même deux chaînes signifiantes, hein, dans le vocabulaire, qui vont opérer un travail de dissociation entre une sphère qui est celle de l'animal vivant, et là on peut bien sûr penser à l'animal lui-même, à sa vie de relation, à tout ce qu'il ressent, au fait qu'on a interrompu définitivement son existence, au fait que ce sont des animaux avec lesquels nous pouvons entrer dans des relations. Et puis de l'autre côté, donc un univers que nos sociétés tentent à autonomiser et à isoler, l'univers de la viande, de la bonne chair, où il n'est plus question de cadavres, mais de carcasses, de morceaux de viande, et donc d'appellations différentes. Un marketing aussi, hein, qui nous présente les choses de façon à ce que nous ne nous posions pas cette question, qui peut éventuellement mettre en suspens la pratique commune.
Vous avez employé ce terme, Florence Boga, très intéressant, de relation en fait avec l'animal, relation qui est abolie, ou en tout cas déniée dès lors que l'on met par la transformation, que ce soit la préparation d'ailleurs, la cuisine,
oui,
ou même la conditionnement plastique, conserve,
oui, voilà,
etc.
Vous avez raison de rajouter tous ces éléments-là, bien sûr.
Donc, dès lors que la relation est déniée, mais est-ce que, si, à partir du moment où on a une relation avec un animal, est-il possible de manger un animal? N'est-il pas forcément, ne fait-on pas entrer des critères comme la cruauté en jeu? C'est-à-dire que cette transformation-là, elle est à la fois physique, naturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ingérer n'importe quelle chose de manière crue et vivante, forcément, mais surtout, en fait, c'est une manière aussi de soi-même pouvoir vivre, en fait.
Alors, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important dans le débat actuel. Parce que aujourd'hui, on fustige beaucoup l'élevage industriel qui s'appuie sur une conception très mécaniste des animaux. Hein. On voit dans les manuels de zootechnie dès la fin du 19e siècle, mais aussi au milieu du 20e siècle, l'animal est une machine thermodynamique. Comment faut-il s'y prendre, hein, pour décupler les rendements? Donc je dirais que dans le monde de l'élevage industriel, on est dans un monde épistémologiquement cohérent. L'animal est une machine. On cherche les moyens de décupler sa production. Bon. Dès lors qu'aujourd'hui, on s'en prend au mode de l'élevage industriel et que on fait de ce fait valoir que les animaux ont des besoins éthologiques, ont besoin d'une vie relationnelle, qu'on parle du lien de la mère avec son petit, qui est évidemment brisé pour la production de lait. Voilà, qu'on va parler des animaux et de la bonne vie qu'on veut leur donner, que certains vont même jusqu'à dire que les éleveurs aiment leurs animaux, leur donnent des noms, etc. L'épistémologie qui sous-tend l'élevage industriel et peut-être, peut-on dire, l'élevage tout court, entre en contradiction. Et vous disiez, peut-on manger des animaux que nous connaissons et avec lesquels nous avons une relation? Je crois que la façon que nous avons aujourd'hui, un certain nombre de gens, de vouloir aller vers un type d'élevage plus respectueux des animaux en leur donnant une bonne vie, rend d'une certaine façon la mise à mort des animaux beaucoup plus problématique et beaucoup plus contradictoire qu'elle ne l'est dans la pensée qui sous-tend l'élevage industriel.
Un farouche cochon sanglier.
Ça, c'est de la bonne viande.
Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des goûts.
C'est du congelé, ça?
Et alors?
Ça, c'est de la bonne viande.
Regarde quelle splendeur cet arrivage, non?
Trois douzaines d'innocents coquelets des Ardennes.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Un douzaine de poulets de vrai.
Et tu verras, comme c'est amusant de découper.
Cinq agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel.
Un bon cuisinier peut faire.
Ah, c'est de la bonne viande.
Bravo.
La fête commence.
L'usage de manger de la viande est, dit-on, fondé sur la nature. Mais d'abord, la conformation seule du corps humain prouve le contraire. Elle ne ressemble à celle d'aucun des animaux carnivores. L'homme n'a ni un bec crochu, ni des griffes ou des serres, ni des dents tranchantes. Son estomac n'est pas assez fort, ni ses viscères assez chauds pour élaborer et changer en chyle une nourriture aussi pesante que la chair des animaux. Au contraire, la nature, en nous donnant des dents unies, une bouche étroite, une langue douce et molle et des esprits animaux d'une chaleur modérée, semble avoir interdit à l'homme ces sortes d'aliments. Si vous vous obstinez à soutenir qu'elle vous a fait pour manger la chair des animaux, égorgez-les donc vous-même. Je dis de vos propres mains, sans vous servir de coutelas, de massue ou de hache. Faites comme les loups, les ours et les lions qui tuent les animaux dont ils se nourrissent. Mordez, déchirez à belles dents ce bœuf, ce pourceau, cet agneau ou ce lièvre. Mettez-les en pièces et, comme ces bêtes féroces, dévorez-les tout vivants. Si pour les manger vous attendez qu'ils soient morts et que vous ayez horreur d'égorger un être vivant, pourquoi donc, outrageant la nature, vous nourrissez-vous d'un être animé? Pourquoi, après même qu'il est mort, ne le mangez-vous pas tel qu'il est? Il vous en faut transformer la chair par le feu, la faire bouillir ou rôtir, la dénaturer enfin par des assaisonnements et des drogues qui ôtent l'horreur du meurtre, afin que le goût, trompé par ses déguisements, ne rejette point une si étrange nourriture.
Alors Florence Burga, voici deux sons de cloche par rapport au fait de manger de la viande. Donc d'un côté, les hédonistes suicidaires de la grande bouffe, c'est dans le film de Marco Ferreri qui date de 1973, dans lequel on les entend s'extasier devant l'arrivage de viande à l'aube, et on entend Marcello Mastroianni dire que la fête commence. Et puis juste après, on a entendu, interprété par Vincent Schmitt, un extrait de « S'il est loisible de manger cher », c'est un texte de Plutarque, donc des siècles auparavant la grande bouffe. Et effectivement, avec ces deux éléments, on a deux éclairages sur l'idée de rapport entre le fait de manger de la viande et l'idée de la nature. Qu'est-ce qui est finalement le plus naturel? Le goût que l'on a naturalisé, auquel on s'est habitué, le fait de manger de la viande, ou le fait que la nature de l'homme ne puisse pas manger, mâcher, ne soit pas capable d'ingurgiter en fait de la viande, comme le dit Plutarque?
Alors avant de répondre à votre question, quand même, à propos de la grande bouffe, que la fête commence, est ironique, parce que voilà, chacun sait que c'est à leur suicide hein, qu'ils sont en train d'œuvrer. Et c'est je trouve c'est un très 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 grand film. Et effectivement, par l'alimentation carnée, ils ne se suicident pas en mangeant des tartes aux pommes. Voilà, mais bon, peut-être laissons.
Quoique justement, ça puisse aller dans le sens de finalement l'alimentation carnée n'est pas faite pour la nature de l'homme dans la mesure où elle peut même le faire mourir. Enfin,
je pense que ça n'est délirante. Pas par hasard. Ça n'est pas par hasard que c'est par l'ingestion de viande hein, qu'ils vont jusqu'à cette satiété qui va les tuer. Alors, pour revenir aux arguments de l'Antiquité et à ceux que Plutarque avance, en effet, il y a l'argument physiologique hein, qui va traverser les siècles et qui consiste à dire qu'il n'est physiologiquement pas naturel pour l'homme de manger de la viande. Bon, ça, c'est un argument qui peut éventuellement venir à la rescousse de l'argument moral qui est peut-être quand même plus intéressant, et qui a aussi cours au fil des siècles, et qui consiste, à tort ou à raison, à dire que cet aliment non naturel au physique de l'homme est aussi quelque chose qui peut moralement l'entraîner à être cruel et sanguinaire. Mais je crois que ce qui est important dans le texte de Plutarque, c'est vraiment de poser la question de façon absolument pure et universelle, pure au sens de non mélanger à un autre argument, hein, au sens philosophique du terme, et universelle, qui est de savoir comment le premier homme hein, a pu approcher de sa bouche, hein, dit-il, cette chair meurtrie, et d'insister sur le fait que ce n'est qu'au prix d'artifice, la cuisson notamment, le fait d'apprêter les viandes, que une répugnance que Plutarque considère comme innée, originelle, a pu être surmontée.
Mais on entend dans ce texte que Plutarque se fait même très provocateur hein, à l'égard des carnivores. C'est-à-dire qu'on a même l'impression qu'il est face à des cannibales. C'est-à-dire qu'il leur dit pourquoi, après même donc que l'animal est mort, vous ne le mangez pas tel qu'il est. Et non, il faut que vous le transformiez, il faut que vous ayez recours à des artifices pour que cette idée, qui est justement impensable, qui est scandaleuse, disparaisse.
Oui. Alors, c'est intéressant aussi que vous fassiez allusion au cannibalisme parce que dans toute la pensée grecque, en particulier dans les mythes, et pas seulement les mythes grecs, mais puisque nous sommes là sur la Grèce, dans la version orphique du mythe de Dionysos en particulier, hein, il y a l'idée donc que le premier meurtre est un meurtre anthropophage, hein, les titans tuent Dionysos enfant et le mangent, et que l'alimentation carnée en général a à voir avec le cannibalisme. Donc ce sont des choses qui sont en effet très proches dans la pensée mythique et aussi plus tard dans les analyses, dans les textes. Et c'est au prix d'une dissociation que nous séparons ces différentes formes d'alimentation carnée.
Mais en même temps, on est un petit peu obligé de séparer
bien
quand
sûr,
même.
Bien sûr qu'on est obligé, bien sûr.
C'est-à-dire que cette comparaison entre cannibalisme et le fait d'être entre le cannibale et le carnivore conduit, pour le coup, à dériver, à mélanger, à faire à des confusions.
Non, je pense que la question du cannibalisme permet de penser plus profondément l'alimentation carnée. Voilà, il ne s'agit pas de les confondre. Hein, manger sa propre espèce n'est pas la même chose que manger une autre espèce, bien évidemment. Mais la question de manger l'autre peut avoir des degrés. C'est-à-dire que dans le cannibalisme dit de gourmandise, hein, qui est une catégorie bien isolée par les ethnologues, il y aura aussi, bien évidemment, des degrés qui vont être établis pour que celui que l'on mange ne soit pas exactement celui de mon groupe. Donc, c'est pour ça que Claude Lévi-Strauss, dans un des derniers textes qu'il nous a laissé, la leçon de sagesse des vaches folles, montre comment on peut penser l'alimentation carnée comme un cannibalisme élargi.
Il y a aussi autre chose dans ce texte de Plutarque qui est tout à fait intéressant, qui est par rapport à l'extrait du rayon vert de Romère qu'on a entendu au tout début. C'est que dans l'extrait de Romère, on demandait à Delphine d'inverser son point, de se justifier sur le fait d'être végétarienne, et elle le faisait en se déplaçant de son point de vue d'homme, de femme, à celui de l'animal. Or là, Plutarque va rester en fait, va demander au carnivore de se justifier sur le fait de manger de la viande. Il va renverser cette position-là et il va demander à l'homme, il va se redéplacer en fait, il va rester du côté du point de vue de l'homme.
Oui, oui.
Et ça c'est intéressant parce que ce qui est engagé aussi, ça n'est pas seulement le rapport de l'homme à l'animal, c'est aussi la conception même que l'homme se fait de lui.
Oui. Alors on voit que c'est un texte d'une certaine manière très moderne, puisqu'on peut dire que pendant très longtemps, la charge de la preuve revient toujours au végétarien. C'est à lui de se justifier, comme dans l'extrait de Romère. Et en effet, si la pratique se développe, si les arguments qui la sous-tendent sont plus visibles, à ce moment-là, on peut revenir à la position de Plutarque et dire aux carnivores « la charge de la preuve vous revient ». Comment pouvez-vous nous expliquer votre pratique ?
Alors, ça suppose aussi de revenir en fait sur les conditions de possibilité de cette explication, sur ce qui est peut-être impensable ou ce qu'on ne rend plus pensable, soit par la présentation de la viande, soit parce que la chaîne alimentaire fait que tout est trop éloigné, soit à cause de l'industrie, soit parce qu'on c'est impensable parce que c'est impensable au sens de scandaleux en fait. Qu'est-ce qu'on doit essayer de repenser alors ? C'est-à-dire le rapport de l'homme à l'animal, la continuité ou le fait que il est mauvais pour la nature humaine, comme le soutient Plutarque, de manger de la viande parce que cela est à la fois immoral et non naturel.
Alors, évidemment, chaque personne n'est pas touchée par de la même façon par tous les arguments que vous avez évoqués. Et on pourrait ajouter à ces arguments bien l'argument environnemental, l'argument tiers-mondiste qui aujourd'hui existe et n'existait pas évidemment du temps de Plutarque. Donc chaque individu ne va pas penser les choses à partir de la même entrée. D'autres pourront la penser à partir des conditions de production qui sont faites aux ouvriers de toute cette chaîne, d'une certaine forme d'élevage qui passe par des pratiques pharmaceutiques qui font que la viande n'est plus bonne pour la santé, etc. Donc ce qui est à penser, on pourrait dire que tout est à penser, la totalité du processus est à penser, mais que c'est d'une certaine façon trop pour un seul individu de penser la totalité du processus, et qu'il y a donc des entrées qui nous parlent plus que d'autres.
Par exemple ?
Dans l'extrait de Romère, c'est vraiment la légitimité hein, de la mise à mort de l'animal en l'absence de nécessité, évidemment. Voilà, je crois que ça c'est évidemment l'entrée la plus importante, parce que c'est la plus radicale, et celle à partir de laquelle le reste découle.
Psychedelico, loco, loco, Carlos Ruiz. Sur les vagues alphabétiques, comme le dauphin glisse, glisse dans les fonds océaniques. Chic, c'est que t'es pas assez zen, c'est que tu suis le système. Ouh, c'est pour cela qu'il te faudra faire une halte à mon enseigne daigne. Rentrer dans ma taverne, ding-ding, ding-ding, bientôt ta panse sera pleine. Comme apéritif, une coupelle de subtilité, puis une légère entrée de rime soigneusement présentée, suivie du plat des mots de la maison, fortement mais finement épicé, précédant d'un dessert de crème de naïveté. Et pour terminer, indigestif afin de bien digérer.
L'appétit vient en mangeant.
Ouh, j'ai faim.
La partie vient en rapport.
Mange dans ce refrain.
L'appétit vient en mangeant.
Ouh, j'ai faim.
La partie vient en rapport.
Mange dans ce refrain.
L'appétit vient en mangeant.
Ouh, j'ai faim.
La partie vient en rapport.
Mange dans ce refrain.
L'appétit
partie vient en mangeant.
L'Oscar donne le sel et le poivre à Solar.
Zigzag. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est le deuxième moment de notre semaine consacrée à la table des philosophes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler normes, mythes et tabous alimentaires avec Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique et co-rédactrice en chef de la revue semestrielle de droit animalier, auteur notamment de La cause des animaux pour un destin commun, C chez Bûcher Castel, Une autre existence, la condition animale chez Albin Michel, Liberté et inquiétude de la vie animale chez Kimé et L'animal dans les pratiques de consommation au PUF.
Dans un grand nombre de sociétés, y compris d'ailleurs la nôtre, il y avait en quelque sorte trois pôles de la préparation alimentaire, à savoir le cru, le bouilli et le rôti. Et que quand nous essayons de parcourir l'éventail de sociétés, nous nous apercevons que des valeurs symboliques très précises sont attachées soit à la crudité et à la cuisson, ce qui est une position simple, soit à l'intérieur des modes de cuisson, entre une autre position simple qui est celle du bouilli et du rôti. Or, dans toutes les sociétés humaines, de façon très frappante, vous trouvez des distinctions de ce genre. Il existe des peuples qui proscrivent tout à fait la nourriture rôtie et qui n'acceptent que le bouilli. C'est le cas, par exemple, des Bororo du Brésil central, chez qui j'ai travaillé. Il y en a d'autres chez qui le rôti et le bouilli s'opposeront comme un mode de préparation culinaire masculin et un mode de préparation culinaire féminin. De sorte qu'à travers ces catégories culinaires se projette ou se profile toute une représentation de la société avec ses hiérarchies et ses dignités et même toute une représentation du monde. Vous pouvez en tirer beaucoup d'enseignements sur le système de valeurs de chaque société.
Autrefois, le singe était comme un homme. Il n'avait pas de poils, circulait en pirogue, se nourrissait de maïs et dormait dans un hamac. Un jour, donc, le singe naviguait en compagnie du préa et s'inquiétait de le voir ronger avidement le maïs qui était en vrac au fond de leur pirogue car il revenait de leur plantation. Mais le préa continuait à manger, et ce que le singe avait prévu arriva. Comme il savait très bien nager, il réussit à enfiler sa main dans les branchies d'un piranha, et brandissant sa prise, il atteignit seul le rivage. Peu après, il rencontra le jaguar, qui s'émerveille à la vue du poisson et se fait inviter à dîner. Mais demande-t-il où est le feu ? Le singe montre au jaguar le soleil qui descendait vers l'horizon. « Là-bas, lui dit-il, ne le vois-tu pas ? Va le chercher !» Alors, le singe invente une technique de production du feu par giration d'un bâton appuyé contre un autre, et que les hommes apprirent ensuite de lui. Il allume un bon feu, y fait griller le poisson, qu'il mange entièrement, sauf les arêtes. Après quoi, il grimpe à l'arbre et se juche au sommet. Quand le jaguar revient fourbu, il comprend le mauvais tour dont il a été victime et s'indigne. Il provoque alors un grand vent qui balance la cime de l'arbre. Le singe se cramponne, mais bientôt les forces lui manquent. « Je vais lâcher !» crie-t-il au jaguar. « Ouvre ta gueule !» Le jaguar ouvre tout grand la gueule où le singe, dégringolant, disparaît. Il arrive dans le ventre du fauve. Mais les choses vont mal pour le jaguar, car le singe s'agit tellement dans son ventre qu'il en est incommodé. Il supplie le singe de se tenir tranquille. En vain, le singe prend enfin son couteau, ouvre le ventre du jaguar et sort.
C'est une très belle interprétation du comédien Vincent Schmitt que l'on vient d'entendre. Donc c'est le mythe rapporté par Lévi-Strauss dans Le Cru et le Cuit, donc le premier volume de ces mythologies qui date de 1964. Et dans ce mythe des Bororo, donc un peuple amérindien, on entend l'invention de deux, on entend deux choses. Donc d'abord l'invention du feu, de la cuisson, et le passage à l'alimentation carnée. Et puis juste avant, on a entendu une archive de Lévi-Strauss qui revient sur son triangle culinaire. culinaire, du cru, du cuit et du bouilli, on voit bien effectivement que notre manière de manger, nos goûts et nos dégoûts sont effectivement fondés sur d'abord une dimension technique, notre rapport à la technique, mais aussi sur une dimension de l'ordre du symbole, du rite, du mythique, ce qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici, Florence Burga.
Oui, dans les mythologies, il y a évidemment tous les cas de figure qui se rencontrent dans les mythes et à l'intérieur desquels sont imbriqués des tas de questions. Alors, il me revient à l'esprit un passage de Triste Tropique où Lévi-Strauss dit qu'à un moment donné, il a dû goûter, pour ne pas froisser les personnes avec lesquelles il se trouvait, des gros verres blancs. Et il dit combien ça a été difficile pour lui de surmonter son dégoût et de manger ce verre. Et en effet, donc, vous insistez sur ces artifices qui nous donnent le sentiment que nos goûts, au fond, sont naturels, alors qu'ils sont construits par du symbolique, par de la technique, par de la transformation. Et il est très curieux de voir que dans un passé assez récent, par exemple en France, la palette des espèces d'animaux consommés était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, mais infiniment plus large. On mangeait des animaux dont on n'imagine pas du tout aujourd'hui de les manger, comme les loirs par exemple, et beaucoup d'autres animaux qui aujourd'hui, je pense, nous sembleraient répugnants. Voilà. Et il est intéressant de voir que la perspective de manger des insectes, qui je crois est complètement absente de notre culture aujourd'hui, pourra probablement s'imposer et entrer dans nos goûts, alors qu'il s'agit aujourd'hui probablement d'un dégoût à l'idée de manger des insectes, précisément parce que la cuisine saura faire entrer ces animaux qui ne font pas pour le moment partie de notre éventail des espèces mangeables dans nos goûts, et nous n'aurons même pas conscience de manger des insectes.
Alors à quoi tiennent finalement ces goûts, en fait, ou en tout cas ces interdits alimentaires, c'est-à-dire que qui deviennent presque des tabous, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les penser, à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que vous nous dites, Florence Burga, que nos goûts, ce sont le champ de ce qu'on mangeait, c'est réduit, en tout cas en termes de viande, depuis quelques années, depuis des décennies. À l'inverse, on peut s'ouvrir sur des choses qui nous semblaient gustativement inimaginables à la consommation. À quoi finalement, sur quelle hypothèse, comment on peut expliquer en fait ces interdits-là? Il y a les interdits sociologiques, hygiénistes, religieux, mais les interdits dont vous parlez là, finalement, on ne sait pas à quoi ils tiennent.
Alors là, on parle moins des interdits que des dégoûts qu'on a un peu, dont on imagine qu'ils sont spontanés et qui en fait ne sont pas spontanés. Voilà, qui sont vraiment, on mange à l'intérieur. On mange ce qu'une culture autorise à manger. Et si on mange en dehors de cet éventail autorisé par une culture, eh bien, on tombe dans des formes de pathologie. Le tabou, quant à lui, est aussi un produit culturel, la plupart du temps issu des religions, qui vont jeter l'opprobre sur certains, alors je dirais moins sur certains animaux que sur certaines viandes, parce que là il y a toute une question très compliquée. Lorsqu'une religion interdit de manger certaines espèces animales, quel est l'objet? D'ailleurs, on s'est souvent interrogé pour essayer de comprendre pourquoi il y avait par exemple l'interdit du porc, en essayant de chercher des raisons hygiéniques, et puis finalement cette explication a semblé insuffisante. Donc les religions sont très très peu claires à cet égard, sauf celles évidemment qui condamnent toute alimentation carnée pour des raisons éthiques, comme le jainisme, le bouddhisme, qui ont des motivations claires. Mais sinon, les religions, les monothéismes qui interdisent certains aliments, ça n'est pas du tout pour des raisons, bien sûr, de non-violence à l'égard des animaux, mais pour un certain nombre de croyances qui sont associées. Soit lorsque l'Église catholique prévoit des jours maigres où l'alimentation, où la viande est interdite, c'est parce que on pense à l'époque, l'Église pense que la consommation de viande échauffe les sens et portera à la sensualité. Et c'est donc à ce titre que la viande sera proscrite. Dans d'autres religions, on peut parler de tabou. On parlait de l'hindouisme, hein, que je connais un petit peu mieux que les autres. Il s'agit d'un tabou alimentaire, en particulier autour des bovins, mais qui n'a rien à voir avec un sentiment de compassion à l'égard des bovins. Donc tout ça sont évidemment des constructions culturelles, religieuses, idéologiques.
Et dont on ne peut finalement pas vraiment rendre compte, parce que le mythe ou le fait que telle viande soit condamnée ou pas, si ça ne tient pas en fait à des raisons objectives, médicales, c'est difficile d'en rendre compte.
Mais c'est bien ce qui définit le tabou, c'est-à-dire qu'il ignore son origine. Et à partir du moment où vous réfléchissez au tabou que vous observez, eh bien, il risque de ne plus être un tabou. C'est-à-dire que par définition, le tabou se nourrit d'une absence de réflexion sur son origine et ses motivations.
L'acte de manger peut entraîner la souillure, mais c'est la manière qui détermine le degré de pollution. La salive souille, même s'il s'agit de la sienne propre, au plus haut point. Si, par inadvertance, un brahmane porte ses doigts à ses lèvres, il doit se laver ou du moins changer ses vêtements. De ces croyances vient la coutume de boire de l'eau en la versant directement dans la bouche au lieu de poser les lèvres sur le bord d'une tasse. Les aliments que l'on peut jeter dans sa bouche sont moins susceptibles d'être pollués par la salive que ceux que l'on doit mordre. La cuisinière ne doit jamais goûter les aliments qu'elle prépare, car en touchant ses lèvres du doigt, elle perdrait l'état de pureté dont elle a besoin pour protéger les aliments contre la pollution. Lorsqu'il mange, l'individu est dans l'état de pureté du second degré, mais s'il devait toucher accidentellement la main ou la cuillère de celui qui le sert, ce dernier deviendrait impur et devrait au moins changer ses vêtements avant de servir d'autres aliments. Étant donné que la pollution peut être transmise par des personnes qui s'assoient en rang pour manger, un invité membre d'une autre caste doit s'asseoir à part pour manger. La seule personne qui ne peut être souillée par le toucher ou en mangeant dans l'assiette de quelqu'un d'autre, c'est la femme qui exprime ses rapports personnels avec son époux. Ainsi, les règles se multiplient, prescrivant des discriminations de plus en plus subtiles.
Florence Burga, on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, un extrait de La Souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou, qui date de 1967. C'est un essai de Mary Douglas, qui est une anthropologue anglaise, qui parle d'une des castes les plus importantes en Inde, les Brahmanes Avik. Et dans ce texte, à la fin, on entend les règles se multiplient, prescrivant des discriminations de plus en plus subtiles. Alors on a l'impression en fait que ces règles qui vont distinguer le pur de l'impur, la souillure de ce qui n'est pas souillé, sont complètement, ne sont pas universelles, mais elles ne sont pas non plus arbitraires. Et toute l'idée, c'est à la fois de les justifier, tout en ne pouvant pas en rendre compte, en fait.
Oui, puisque ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que la personne peut se souiller elle-même par sa propre salive. Donc on voit aussi que ça peut aller extrêmement, extrêmement loin. Et on a le sentiment, enfin, pour expliquer que les choses aillent aussi loin, que c'est l'individu lui-même qui est une souillure. Et par conséquent, si sa propre salive peut souiller les aliments qu'il ingère, on arrive à une espèce de limite, hein, qui fait que...
Il ne devrait même plus se nourrir, finalement.
C'est ça, il faudrait qu'il s'extrait absolument de tout. Bon, on sait que ces questions de pur et d'impur sont très fortes dans l'hindouisme, du moins lorsqu'il est pratiqué de façon très, très rigide par certaines castes. Je ne sais pas si c'est encore pratiqué comme ça aujourd'hui, puisque par rapport aux intouchables, il y avait même l'idée que l'ombre, lorsque vous marchez, l'ombre d'un intouchable pouvait vous souiller. Donc vous voyez, il y a un degré extrême, enfin poussé à l'extrême, hein, jusque dans le symbolique, puisque l'ombre n'est pas une matière évidemment physique. Et en effet, on voit tous ces interdits à l'œuvre dans la pratique alimentaire. Au fond, on peut dire que là, on a quelque chose qui est poussé à l'extrême. Mais lorsqu'on est dans des contextes qui ne sont pas religieux, où des gens qui ne sont pas religieux mangent ensemble, nous allons observer aussi un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'on ne va pas boire dans le verre des invités, même si en réalité, nous n'allons pas leur transmettre une maladie. Voilà, on ne le fera que si la personne vous invite à goûter dans son assiette ou avec sa fourchette.
Donc il y a effectivement, on a parlé tout à l'heure de règles, en fait, du goût fondé, des goûts et des goûts fondés sur des règles qui nous dépassent, dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc il y a des règles techniques, une conception de l'homme avec la nature, et puis la manière aussi dont sont préparés les aliments, qui tient aussi d'ailleurs à la dimension technique. Et puis il y a aussi ces manières de table, en fait, qui vont discriminer ce qui est comestible de ce qui est consommable, en fait, parce que tout n'est pas consommable.
Bien sûr, le registre du comestible ne coïncide pas avec le registre du consommable. Voilà. Chaque société va opérer un tri à l'intérieur de tout ce qui peut être comestible. Et ce tri est assez rigide, d'une certaine manière.
Et est-ce qu'il tient forcément...
Concernant l'alimentation carnée, parce que pour le reste, on s'aperçoit qu'il ne serait pas tellement... Ça ne choquerait pas l'esprit que quelqu'un mange des plantes qu'on n'a pas l'habitude de manger. D'ailleurs, c'est amusant de voir les fleurs, vous savez, les fleurs comestibles qui sont vendues, y compris dans des supermarchés, pour décorer les salades et qui sont mangeables. Donc on peut dire que concernant le végétal, on peut élargir la palette. C'est vraiment concernant l'alimentation carnée que cette frontière est beaucoup plus forte, hein, d'où le sentiment d'étrangeté ou voire de dégoût que nous avons à l'égard des populations qui mangent les chiens et les chats, par exemple.
Cette alimentation carnée, à l'inverse d'un autre rapport à d'autres aliments, en fait, se voit restreinte par un goût et un dégoût, en fait, qui se sédimentent, en fait, qui se solidifient en nous et même peut-être malgré nous. Mais avant ça, il y a quand même toute une réflexion, l'idée quand même de penser ces conditions, en fait, de l'alimentation carnée. Et c'est intéressant aussi de déplacer le problème qui serait, on ne mange pas la viande par religion, par hygiène, ne serait-ce même que par morale, mais finalement juste par une conviction philosophique. Est-ce que ce serait possible de se dire philosophiquement, je ne peux pas manger de viande parce que dans les termes, ça me paraît contradictoire que l'homme mange un animal, parce que ça me paraît contradictoire par rapport à une vision de la technique que j'aurais. Est-ce que ce serait recevable comme argument?
Alors oui, il est recevable, mais je pense que ça n'est pas quelque chose qui vient d'abord. Je pense que ce qui vient d'abord, nous avons d'abord la pratique commune de la société dans laquelle nous vivons. Et si nous nous en écartons pour des raisons philosophiques, pour des raisons morales, cela ne vient qu'après. Donc, en effet, quand vous parlez de sédimentation, hein, c'est quelque chose qui est entré à l'intérieur de nous parce que nous sommes nés dans un environnement culturel, familial, social qui fait que on nous a conduits, et ce qui est tout à fait normal, hein, à adopter la pratique commune sans que nous la ayons à la réfléchir. Bon, il y a là une économie, hein, de pensée qui fait que nous suivons la pratique ordinaire et que la réflexion, précisément, si elle vient, ne peut venir qu'après, déranger éventuellement cette construction, cet édifice qui est assez solide.
Et comment cette réflexion philosophique va-t-elle venir déranger, en fait, ces mœurs qui sont des mœurs de l'ordinaire, du quotidien, en fait, et du culturel? Comment elle peut venir les déranger en éveillant les consciences, en montrant par exemple comment sont conditionnées les viandes, ou en montrant que d'autres cultures sont végétariennes, non pas par dégoût, mais
par des raisons philosophiques, oui. Ben, je pense qu'il y a des tas de des tas de rencontres, entre guillemets, qu'on peut faire et qui peuvent déranger cet édifice. Ça peut être des images. Évidemment, nous avons tous en tête maintenant les images d'abattoirs qui ont été filmées par cette association L214. Mais ça peut être une lecture, la lecture d'un texte. Ça peut être le fait de voir quelque chose. Ça peut être de lire un étiquetage qui, tout à coup, vous révèle quelque chose. C'est au fond de se détacher de ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise et d'aller vers les conditions de production de cette marchandise qui, à ce moment-là, tout à coup, se révèle à nous sous une autre apparence. Et c'est à ce moment-là notre représentation qui change.
Tout à l'heure, vous avez dit, Florence Burga, qu'on pouvait arrêter de manger de la viande tout en ayant le goût de la viande. Alors ça, comment c'est possible? Là, il y a bien une force de la pensée pour le coup.
Alors je pense qu'évidemment les gens qui aiment la viande et qui arrêtent d'en manger, s'ils arrêtent d'en manger parce que leur représentation a changé, on peut penser que progressivement, évidemment, de toute façon, on se défait d'habitudes, les habitudes gustatives nous quittent aussi au bout d'un moment. Mais en effet, cela peut demander un effort. Je crois qu'il ne faut pas cacher cette dimension. La décision morale peut demander évidemment un effort de la volonté et un effort des pratiques. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui deviendrait végétarien en salivant deux fois par jour devant la viande qu'il imaginerait pouvoir manger. Si une personne qui serait dans cet état n'est pas encore prête, je crois.
Mais est-ce qu'elle serait immorale ?
Non, je crois qu'elle ne serait pas immorale, elle serait au contraire dans une démarche de la volonté. Et elle serait donc dans cet état où quelque chose en elle, cette appétence pour la viande, continue à être active, tandis que sa conscience l'entraîne dans une autre direction.
Une fois n'est pas coutume, allons au restaurant. Nous payer du caviar et des petits ortolans. Consultons le journal à la rubrique esbrouffe, révélant le bon coin où pour pas cher on bouffe. Nous irons à celui-ci, nous irons à celui-là, mais il y a des objections, l'un aime, l'autre aime ça. Je propose, engouffrons le trapétit peu mince au bistrot, le troisième après la rue Huygens. Tous d'accord, remontons le boulevard Raspail jusqu'au bar où l'on suce la mousse avec les pailles. Hans William Vladimir et Jean-Jacques Dupont avalent le goulûment de la bière en ballon. Avec ses chers amis, d'un pas moins assurés, nous trouverons enfin le petit endroit rêvé. Les couteaux y sont beaux, les nappes y sont sales, sales. La serveuse.
Eh bien, merci beaucoup Florence Burga d'avoir participé à cette émission. Donc, je rappelle que l'on peut lire de vous La cause des animaux pour un destin commun, c'est chez Buchet-Castel. Une autre existence, La condition animale, c'est chez Albin Michel. Liberté et inquiétude de la vie animale, c'est chez Quimet. L'animal dans les pratiques de consommation, c'est un que sais-je au PUF. Et puis, Ahimsa, violence et non-violence envers les animaux en Inde, que j'ai lu au tout début, c'est aux éditions de la Maison de Sciences de l'Homme.
La carne nous amène en routine d'aspect dur, ornée concentriquement de légumes impurs. Elle proposera les miettes gluantes d'une tête de veau que connurent les lentes.
Elle proposera les panards englués d'un porc qui négligea toujours les lavés.
Peut-être qu'un produit
Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour la suite de cette semaine consacrée à la nourriture. Après goûter, se priver et avant de digérer, on se goinfrera en compagnie de l'excellent Bruno Pinchard qui nous parlera de Rabelais et de l'appétit de ces géants. Et quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez réécouter en ligne ou télécharger, podcaster cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter.
Sous la dent, se blanchir à la selle bien cuisant sous les dents. Plutôt que de noircir l'intestin qui grêle.